ça veut dire l'égarement dans le sens de frayeur épouvante. Tohé, avec hé, ça veut dire l'égarement pur et simple. Et l'égarement peut mener à la frayeur. Mais je ne me souviens plus, c'était vous qui étiez donc assis là ou c'était quelqu'un? Ah, c'est ça. Oui, il ne faut jamais changer les places de l'échiquier. Et donc, je reviens à cette lecture qui est finalement très simple. La lettre même, quand il s'agit du même final, désigne toujours en hébreu biblique la totalisation, la réalisation, l'actualisation. C'est un sujet pour lui-même. Et donc, la limite du tohu, c'est tehom. Tehom se contraduit en général en français, dans le Olam Asiya, par l'abîme abyssal, l'adjectif, ken. De la même manière, le mot bohu a pour limite le mot behema. Il y a, dans le vocabulaire de la Kabbalah, mais il y a une fois dans le texte des prophètes, l'expression tehom et behom. Or, qu'est-ce que c'est que tohu, dont la limite est le tehom? C'est la molécule la plus diluée, la moins concentrée, le vide. C'est ça la limite. Inversement, la molécule la plus concentrée, la plus complexe, la plus dense, c'est la chair. Nous en avons déjà parlé de cela? Oui. Alors, le mot de behema, qui est finalement la limite de ce que le monde lui-même peut produire comme être de nature, frôlant, asymptote à la réalité de la personne, est désigné par le terme de behema. Vous allez comprendre ça tout de suite par le déroulement du récit, et je continuerai l'analyse. Regardez bien le verset 2. « Be'are tzaita tohu vabohu. » Or, la terre était simultanément tohu et bohu. Le tohu arrive tout de suite à son aboutissement de tehom. « Ve'choshek alpenet tehom » tout de suite. Et ça, c'est réglé pour le tohu. Et ensuite, un long récit qui aboutit à l'heure du sixième jour, l'être de nature le plus élaboré, frôlant encore une fois l'identité de la personne, le sujet animal, qui s'appelle Behema. Et donc, tout le récit qui commence après le mot de Théhom, c'est l'histoire du Bohu qui va devenir Behema. C'est clair jusque-là? Retenez qu'il y a deux vocables, et je ne voudrais pas vous en parler maintenant, dont se servent beaucoup le vocabulaire kabbaliste, Théhom et Behom. Vous comprenez ces deux limites? D'un côté, l'être le moins présent, le vide, la nature la plus nature, si j'ose dire, et de l'autre côté, l'être le plus présent, la chair. Or, le mot de Behema, nous le lisons comme cela, Bet-he, Mem-he, Behema, la bête, l'animal, enfin, avec l'adjectif Bahami, biologique, à la limite. Okay. Biologique dans le sens de animal, vivant, mais dans le sens de purement animé, mais la personne n'est pas encore présente. Or, les kabbalistes le disent autrement. Ba-ma. En elle, il y a un ma. C'est clair? Et tout le problème de l'homme, c'est de prendre en charge ce ma de la behema et d'en faire un mi. Je vais donner une équivalence de gamatria très simple. Ma, qui veut dire quoi, ce que, le ça, comme j'ai dit un jour, quel. C'est la présence de l'impersonnel arrivé le plus proche de ce qui pourrait être la personne, mais avec solution de continuité. Asymptote, comme je dis souvent. Okay. Et ma, pour valeur numérique, 45.
Comme Adam.
C'est ce que j'allais dire. Comme valeur numérique 45, c'est la valeur numérique du mot Adam, qui veut dire l'homme sans article. Adam. Je vais vous compter ça à l'œuf d'Alet même. 1, 4, 40, ça fait 41. Alors que mi, qui veut dire le quelqu'un, c'est le mot ha-adam, c'est-à-dire le mot de Adam, la nature de l'homme, mais avec l'article, la désignation personnelle. Et là, c'est 50, ha-adam. Bon, je referme la parenthèse. Et donc, vous allez maintenant me rappeler votre question. Qu'est-ce que c'était que les maïm? Ce sont les choses à l'origine, qui sont appelés les maïm. Ces choses, à l'état le plus élémentaire, le plus indifférencié, nous en avons une illustration dans le monde de la réalité, je ne dis pas matérielle, mais en acte, c'est l'eau. C'était cela l'origine de votre question.
Il n'y avait pas de précision dans le texte biblique sur la création de ce qu'on appelle habituellement.
C'est cela. Or, maintenant, pour la deuxième partie de la question, il y a dans le Midrash trois interprétations du mot Shamaïm que je vais vous rappeler très rapidement. La première, et je crois qu'il est sémantiquement la plus fondamentale, c'est le mot Sham qui signifie l'endroit au duel. Sham, là-bas. Alors, Sham au duel. Un des grands commentateurs du texte biblique, qui est Sforno, un grand rabbin d'Italie, a expliqué que par là, déjà, le mot Shamaïm indique la forme sphérique dont nous parlons. Puisque à chaque point de l'endroit, il y a toujours dans toutes les dimensions deux dimensions opposées égales, ce qui fait apparaître la forme de la sphère. Je crois qu'on pourrait rattacher cela aux données assez contemporaines de l'univers sphérique, enfin, de l'atmosphère sphérique. Sham, au duel, fait apparaître la forme de la sphère. Le Midrash ajoute deux étymologies. Sa, Maïm. Sa, qui est écrit Sin, Aleph, et Maïm. Sa, ça veut dire ce qui porte. C'est la racine, la set, ou Nasso, okay, avec Sin. Sa, Maïm. Ce qui porte les maïm. Et puis, il y a une troisième étymologie que cite le Midrash, c'est l'unité de deux mots différents, esh, le feu, et maïm, l'eau. Que le ciel, le mot le ciel, qui est lui aussi en hébreu au duel, comme vous le voyez, et pas au singulier, de nouveau l'arabe dit sama pour dire le ciel, alors que l'hébreu dit shamaïm, c'est la seule réalité où il peut y avoir unité des contraires, l'eau et le feu ensemble. Puisque, je ne sais pas si nous en avons parlé dans ce séminaire, ce qui définit la Terre, c'est que c'est un endroit d'éloignement de la source unique de toute valeur, où les valeurs sont contradictoires. Là où il y a le feu, il ne peut pas y avoir l'eau. Là où il y a l'eau, il ne peut pas y avoir le feu. C'est clair jusque-là? Alors que précisément le Shamaïm désigne ce niveau de l'être du monde, où les contraires sont unifiés. Et donc, dans ce vocabulaire, le mot « le ciel » signifie l'unité des valeurs. Et c'est pourquoi une expression comme, par exemple, « irat shamaïm », la crainte du ciel, va prendre tout de suite un sens beaucoup plus profond. Je crois que c'est ce que nous avions de commun avec les Gaulois, qui avaient la peur du ciel. Ils avaient « irat shamaïm ». Et c'est pas du tout une blague. Ce sont les modernes qui ne comprennent plus ce que voulaient dire leurs ancêtres, les Gaulois, quand ils disaient qu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. En réalité, c'est une expérience religieuse très profonde qui signifie qu'ils avaient le respect, la crainte, ils avaient Yirat Shamaïm en hébreu, de cet endroit de l'être où il y a unité des valeurs. Et je crois que ça ferait plaisir aux instituteurs de l'Académie française. Donc il y a une relation. La réponse qu'on vous a donnée, je ne sais pas de quelle source a été prise, mais ça va dans ce sens quand même. Que déjà dans le mot de Shamaïm, il y a allusion à cela. Mais malgré tout, la Béhéma ne vient pas de Shamaïm. Vous verrez un Rashi pour la création de l'homme, verset 7 du chapitre 2, qui dit que finalement, l'homme apparaît comme une sorte de collaboration, le nombre pi, entre ce qui vient de Tohu et ce qui vient de Bo. Vous verrez cela, non ? C'est l'homme. Mais la Behema, finalement, je relis la phrase, Ba-Ma, en elle il y a un Ma. Notre problème, c'est d'arriver à prendre en charge ce Ma et en faire un Mi. Non, une fois de plus, c'est pas compliqué à comprendre. C'est très difficile à faire.
Par élection, puisqu'on doit prendre en charge la Behema, est-ce qu'il y a un rapport avec les règles de la
cache-route ? En particulier, oui. Et surtout de la domestication, qui est un des mystères du récit biblique, où on s'aperçoit que l'homme des premières générations était capable d'humaniser l'animal, peut-être il s'agit des hommes d'ailleurs, alors que dans les générations d'après le déluge, cette capacité disparaît. L'homme moderne, ça commence au déluge, est capable de dressage d'individus de cirque, de faire du dressage de cirque, mais non pas de de domestiquer des espèces. Et en particulier, il y a une prophétie d'Isaïe que précisément les théologiens rationalistes préfèrent expliquer par une allégorie, mais qui a sans doute un sens direct beaucoup plus profond que cela. Vous vous rappelez de cette prophétie où Isaïe dit « Il arrivera un temps où le loup pètera avec l'agneau et un petit enfant les conduira. » En particulier Maïmonide, dans une célèbre page du Guide des Égarés, dit « C'est l'allégorie de la paix. » Bon, c'est facile à comprendre et énormément de rabbins, curés, pasteurs se sont servis de ce texte dans leurs sermons. Mais peut-être que de manière plus directe, encore une fois, la lecture pshat, la lecture simple est plus profonde. C'est que qu'est-ce que c'est qu'un loup pouvant vivre avec le troupeau et qu'un petit enfant les conduit? Ben c'est tout simplement le chien du berger. Or, le chien est un loup devenu gardien du troupeau. Et c'est un petit enfant qui peut les conduire. Bien, je referme la parenthèse. Vous avez d'autres questions? Venez, on va demander, madame.
Parce que
ah oui, je t'ai oublié. Attendez, attendez, n'allez pas si vite. Qu'est-ce que ça veut dire s'identifier à Chorma et donc préexister à toute existence? Qui vous a dit que Chorma peut... C'est ce donc que...
Non, je veux dire que bon, j'imagine très bien que comme que l'eau, ça peut être la sagesse qui est là de tout temps. Mais alors là, aussi...
Mais je n'ai pas dit ça. Écoutez, je comprends un peu votre direction de pensée, mais je vais juste un peu préciser. Ça demande une précision à chaque niveau. Par exemple, le mot de Maïm dans l'Olam Asiya, c'est tout simplement l'eau que l'on boit. Bon. Dans l'Olam Yetzira, Maïm, c'est la charité. Ça veut dire, ce qui dans l'Olam Yetzira est la valeur de Chesed, de charité, lorsque cela descend dans le monde de l'acte Asiya, ça devient l'eau, vraiment. Et par conséquent, et ce n'est pas encore une fois du symbolisme poétique, l'eau, c'est de la charité, et la charité, c'est de l'eau. Les poètes pourront utiliser cela. Mais ontologiquement, en réalité, dans le Olama Yetzira, Maïm s'appelle Chesed, et dans le Olama Asiya, Chesed s'appelle Maïm. Attendez, j'y arrive. Alors, plus haut, ce sont d'autres réalités. Il y a peut-être quelque chose qui vous a suggéré ce que vous avez dit, il y a une partie de choses de vrai. Ah, très bien. C'est que le mot de Chochma se lit Koachma. Alors, c'était ça que vous voulez dire.
Mais c'est pas fini. Enfin, je voulais vous poser une autre question à la côté.
D'accord, je vous ai interrompu.
Au fœtus dans l'eau.
Ah ?
Au fœtus dans l'eau. Je me pose la question, est-ce que c'est la création de l'homme qui nécessite l'eau autour de lui ? Et dans ce cas-là, c'était dans ce but que l'eau... était là, ou est-ce que c'était antérieur, c'était avant le dessin de la création de l'homme? Enfin, c'est pas bon. Il y a aussi l'image de l'acte sexuel qui vient s'interférer avec ça. Je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui était au départ
je vous avoue
avant le but de la création de l'homme. Est-ce que cette eau était là de tout temps?
Mais vous voyez, en tout cas... Je ne vais pas encore pouvoir répondre à votre question parce que j'avoue, je ne la comprends pas très bien. En tout cas, votre question met l'accent précisément sur la difficulté de ces sujets, de ces problèmes. C'est-à-dire, dès que l'on quitte le registre des significations, alors on tombe dans un registre imaginaire où, à la limite, on pourrait dire n'importe quoi de n'importe quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Et donc, je crois qu'il est préférable de s'en tenir au registre des significations pour commencer, en tout cas. Ce que j'ai en tête en vous écoutant, c'est énormément de thèmes de la mythologie qui utilisent ces images, mais en leur donnant finalement un sens qui, pour nous modernes, pourrait apparaître poétique seulement, mais en leur donnant un sens concret qui est purement et simplement païen. Et vous voyez, qu'est-ce qui peut sortir de cela? N'est-ce pas? Vous voyez à quoi je fais allusion. Et vous vous rappelez d'un poème latin? Je retrouve ma mémoire latine. Qui parle de l'œuf de Léda. Hein? Bon, ça vous dit quelque chose, oui. Ça va un peu dans le sens de votre image. Alors, vous ne trompez pas, ce n'est pas le mot Léda en hébreu qui signifie le fœtus de l'accouchement, mais c'est l'Eda, c'est un oiseau, un cygne, il me semble. Bon, et je crois que on ne pourrait pas avancer dans un langage commun avec, entre qui que ce soit et qui que ce soit au niveau de ces images, sinon par allusion. Simplement, si votre question est qu'est-ce qui a précédé dans le processus de la création l'eau, et vous dites tout de suite par exemple l'eau qui entoure le fœtus ou le fœtus, simplement au nom de cette chorma de la Kabbalah, je peux répondre, je ne comprends pas votre question. Okay. Ce qui a précédé à la création au niveau de la réalité, c'est le projet de la création. Et simplement retenez le principe général de la tradition biblique, c'est que ce qui nous est raconté à la fin dans le récit de l'accomplissement était au début dans le projet de l'œuvre. Sauf Maaseh veMachshava Tchila. Par exemple, le premier verset nous dit « Au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. » C'est donc que les cieux sont plus hauts que la terre, puisque la terre est réalisée après, plus bas. Mais c'est donc que dans le projet du Créateur, la terre était avant. C'est pour créer la terre que les cieux ont été créés. Je relis cela. Ça peut paraître un peu paradoxal pour la pensée occidentale. Okay, que la terre est plus précieuse aux yeux du Créateur que les cieux eux-mêmes, alors qu'en eux-mêmes, les cieux sont d'une qualité plus précieuse que la terre qui est plus bas. Et comment ?
Il y a un autre verset qui dit...
Mais pas Bria, Asiya. Beyom Asot, Hashem Elokim, Erez Veshamayim. Ça, c'est dans Asiya, c'est pas dans Bria. Vous pensez au verset 4 du chapitre 2.
Oui, et puis il y a la discussion entre... Hillel
et Shammai. Et qui cite finalement un troisième verset qui met les deux premiers en équilibre. Okay. Alors, faites bien attention. Dans le premier verset, c'est Bara. Dans le deuxième, c'est Asot. Je referme la petite parenthèse pour terminer. C'est que ça se relie à ce que j'avais dit précédemment, que toutes ces hiérarchies existent réellement de haut en bas, mais pas de bas en haut. Bien, tu as la parole, David, après si vous.
Alors, j'ai trois questions.
Une par une. Hein.
J'espère que c'est dans le sujet. Hein. Au début de la création, Bereshit bara Elokim et ha-shamayim ve-ta-aretz, והארץ הייתה תוהו ובוהו ורוח אלוקים
אשר בין השמיים. בחושך בין תהום ורוח אלוקים. ויהי.
ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. ודיו די כדי למייר סוואל אל מייר פוי.
וי.
Ma première question, d'abord que on voit que du début de la création jusqu'à la fin de la création, le monde est créé par le mot Vayomer.
Oui.
Le mot, c'est-à-dire la douceur.
Oui.
Parce que quand on dit Vaidaber, j'ai appris que c'est de Vayom Kachot, c'est-à-dire avec dureté.
Oui.
Et quand on dit Vayomer, c'est avec douceur.
Oui, exact.
Alors, j'ai appris aussi que quand un texte commençait par Vayehi, c'est signe de malheur. Mais est-ce qu'il. Enfin, qu'après, il y aura un problème à l'intérieur du texte. Et dans ce cas-là, comme il est au milieu du texte, est-ce que Yehi Or, Vayehi Or, est-ce que c'est l'aboutissement de Yehi Or ou est-ce que c'est un problème de malheur qui arrivera après?
Très bien. Alors, très bien.
C'est la première question.
Attends, je vais répondre à la première question. Il te suffisait de la dernière phrase. C'est-à-dire, est-ce que le terme de Vayehi Or du verset signifie, comme la règle habituelle que tu as citée, qu'on annonce un malheur? C'est cela?
Oui.
Bon. Eh bien, oui.
Ou c'est seulement au début du texte que c'est un malheur?
Oui. C'est surtout au début du texte, et lorsque le texte n'est pas seulement Vayehi, mais Vayehi Bimé. Ah. Seulement, on utilise aussi cette règle chaque fois qu'il y a Vayehi. Ça se relie de nouveau à la notion de Tzimtzum. Et je vais vous l'expliquer très rapidement. Yehi Or, c'est la lumière du projet, qu'il y ait lumière. La lumière du projet est absolue. C'est celle qu'il y aura en fin de compte quand on l'aura méritée. Mais Vayehi, dans la réalité, il y a eu une lumière diminuée. Il y a eu lumière vraiment, mais diminuée. Ça va donc dans le sens de la même règle, que c'est quand même la chambre de Tsahar. Tsahar, c'est rétrécissement, angoisse. Je crois que là, c'est une question qui est extrêmement à sa place, et c'est ce que nous avons appris déjà dans les cours précédents. Ce qui est voulu dans le projet de création, c'est le Olam HaBriya, c'est le monde dans sa perfection. Et le monde dans sa vérité. Par exemple, dans cette expression, Yehi Or. Et ce Or est plein, total. Mais lorsque ce monde est donné à la réalité pour sa mise à l'épreuve, il y a ce passage de la vérité à la réalité qui est indiqué par le terme de Vayehi. Et lorsque la vérité se fait réalité, elle se rétrécit, elle se défigure souvent, elle tombe dans le défaut Et c'est cela qu'indique cette règle de En Vayi et la Lachon Tsar. Le Zohar l'explique de cette manière. Yehi Or, c'est le Or de Olam Haba, qu'on appelle Olam Abriya. Et Vayi Or, c'est le Or de Olam Hazé, qu'on appelle Olam Asiya. Voilà. Vous voyez qu'à force de familiarité de vocabulaire, vous verrez que tout est très simple. D'une certaine manière, le monde parfait existe déjà. C'est ce Olam Abriya qui est Marche Bet Abriya, le projet du Créateur. Ce projet du Créateur, le premier He, les quatre lettres, descend dans le dernier He de la réalité. Et Bria descend dans Asiya. Et finalement, l'espérance de Olam Haba, c'est que Asiya pourra être transfigurée au niveau de Bria. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et que Olam Hazé deviendra Olam Haba. Mais d'une certaine manière, le Olam Haba est créé avant le Olam Hazé et diminué dans les dimensions du Olam Hazé. C'est de nouveau une illustration de la notion de Tzimtzum. Alors si vous voulez profiter de la question de David, chaque fois vous rencontrerez cette règle, qui est une règle talmudique aussi, je trouve sept fois dans le Talmud, que chaque fois qu'un récit commence par l'expression « Vayehi », le futur transformé en passé, le passage de la vérité à la réalité, il y a eu Tzimtzum, même dans ce verset. Ce verset ne comporte pas « Vayehi chen » et il en fut ainsi, ce qui serait l'ombre d'une lumière. Il y avait or et il y eut lumière vraiment, mais lumière diminuée, lumière de réalité, alors que le projet, c'est la lumière de vérité auquel nous sommes destinés dans la mesure où nous le méritons. Enfin, grosso modo simplifié, c'est un peu cela le problème. C'est clair? Vous avez dans Rashi, qui cite un Midrash, que la lumière des jours du commencement était une lumière totale qui a été diminuée, mais la lumière du commencement est mise en réserve pour les justes qui la mériteront. Vous vous rappelez de ce Midrash? Bien, encore rapidement, deux autres questions, parce que je vois que l'heure avance et qu'il faut que...
Une autre question. Jusqu'au quatrième jour, on parle du temps à partir du quatrième jour. Parce que Dieu a séparé les Mehorot, quatrième jour, et les Shanim, et les Shavuot, et les semaines, et les journées. Oui. Quel est l'espace de temps qu'il y a eu pendant les trois premiers jours?
Bien, c'est une question tellement... Oui, c'est que selon le récit que nous avons dans le récit de la Bible, les structures et l'organisation du temps n'apparaissent que dans l'œuvre du quatrième jour. Or, on parle de succession de temps déjà dans les trois premiers. Ce fut jour, ce fut soir, ce fut matin, jour 1, jour 2, etc. C'est une question sur le temps qui me prendrait trop de temps aujourd'hui. Et je préfère répondre vraiment de façon très très succincte. Jusqu'au moment où l'homme apparaît dans l'œuvre du sixième jour, l'être du monde n'est pas perçu par une conscience humaine, et donc n'est pas perçu par les catégories de temps et d'espace de la conscience humaine. Par conséquent, je préférais qu'on réserve pour cette question-là le sens des sphirot, c'est-à-dire ces jours dont il est parlé ici, c'est aussi la structure des six sphirot qui mènent au Olam HaAsiya, qui sont de Chesed HaYesod. Je veux dire ça vraiment très, très brièvement. À propos de l'intitulé de la lumière, que vous avez au verset, à partir du verset que tu as cité, du verset, vous avez au verset 3, 4, 5, et verset 3, 4 et 5. Vous lirez en détail par vous-même. Je vais vous le dire oralement, brièvement. Vayomer Elohim Yehior, c'est le or de Chesed. Vayior, c'est le or de Gvura. Vayar Elohim Etaor Kito, c'est le or de Tiferet. Vayavdel Elohim, bena Or, le Or de Nessar, ou bena Chosher, qui est le Or de Hod. Vayaerev, c'est le Or de Yesod. Vayiboker, c'est le Or de Malchut. Et tout cela, c'est Yom Echad. Alors, cette structure se retrouve elle-même dans l'œuvre des six jours. Le premier jour, c'est l'œuvre de Chesed. Le deuxième jour, c'est l'œuvre de Gvura, etc. Alors, donc, dans le quatrième jour, apparaissent les structures du temps qui régissent le Olam HaAsiya. Je vous ai dit ça très succinctement et par allusion pour vous montrer que ces questions existent, les réponses existent aussi, mais qu'il faut beaucoup plus de temps d'étude pour les élucider. Bien. Je suis vraiment désolé, il me reste quelques minutes. Alors, une dernière question, monsieur, qui l'avait posée, et toi demain.
Ça ne
te rien
répéter. Ce qui est ça vous prendrait peut-être trop de temps, mais je peux toujours la formuler rapidement. C'est une question, comme toutes les questions intéressées et aussi désintéressées, à propos des commandements de Noé et des Gaulois dont vous avez parlé tout à l'heure et de l'obligation pour tout homme de transformer de ma en mi. Est-ce que vous pourrez situer, dans le cadre des commandements adressés à tous les hommes, ces deux principes d'une représentation correcte des mondes échelonnés, de connaissance, et sous l'aspect de la liturgie ou du rite dont vous avez parlé également, quels seraient les critères pour l'ensemble des hommes qui n'ont pas eu la révélation de se conformer, je dirais naturellement entre guillemets ou spontanément entre guillemets, à ces deux principes qui sont la condition de la transformation par l'homme du ma en mi.
Eh bien, je crois que, pour aller vraiment à l'essentiel de votre question, on peut se référer à l'exemple des Gaulois. Autant que je sache, les prêtres des Gaulois, disons les druides, avaient pour consigne de ne reconnaître aucune représentation idolâtre. Et donc, nous avons là l'exemple de que cela est possible. Ce qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité est expliqué par beaucoup de sources, mais je vous citerai une source de la culture générale, et qui est ce qui est arrivé dans l'école des pythagoriciens. Les pythagoriciens avaient aussi deux traditions d'explication du monde, une exotérique que les historiens appellent acousmatique, on la répète comme on l'a entendu, mais sans forcément la comprendre, par répétition acousmatique, et qui est polythéiste. Mais une qu'ils appellent mathématique, on la comprend et on répète ce qu'on comprend, qui était une tradition initiatique, ésotérique des pythagoriciens, où il n'y avait pas d'image. Sinon, le langage mathématique. Alors je crois que dans l'humanité, ce qui a été dévoilé, c'est la multiplicité de l'unité divine, ce qui a été caché, c'est l'unité, alors que dans la tradition d'Israël, c'est l'inverse. Ce qui a été dévoilé, c'est l'unité, ce qui est caché à cause des dangers que cela représente. Et je crois que la consigne, entre guillemets, que je vous ai indiquée tout à l'heure, peut servir de base à une épuration du problème, c'est que de haut en bas, toutes ces hiérarchies existent, mais de bas en haut, les reconnaître ou les visualiser surtout, et les représenter, c'est cela l'idolâtrie. Je pense que ça pourrait être résumé comme cela. Et par conséquent, ceux qui sont des nations et deviennent d'une certaine manière hébraïsants, plus que judaïsants, d'autant plus que maintenant nous avons une société hébraïque, et pas seulement une communauté juive, pourrait utiliser ces principes de la Kabbalah de façon simple, c'est-à-dire de renoncer dans la liturgie de la relation à Dieu à tout ce polythéisme, quel que soit son symbolisme, fût-il récapitulé, et de s'en tenir aux lois de Noé, dont une des plus importantes, c'est l'interdiction de verser le sang ou de le consommer. C'est pourquoi il y a un problème particulier concernant la tradition chrétienne, qui, quelle que soit sa manière dont elle s'est branchée sur la Bible, à garder ces deux restes de du polythéisme ancien, c'est-à-dire d'une part la représentation fût-elle récapitulée même comme ça se passe dans les temples protestants, c'est quand même une récapitulation d'idolâtrie, et d'autre part la consommation du sang, ce qui implique que la relation avec le problème de l'interdiction de verser le sang n'est pas encore en ordre. J'ai dit ça très schématiquement, mais à ces deux conditions minimum près, et on pourrait nuancer d'autres. Je pense que la vision de l'alliance des fils de Noé pourrait retrouver une certaine cohérence. Or, ce n'est pas encore le cas, à mon sens. Bien, alors je suis vraiment désolé pour ce matin, mais j'espère qu'on ne me mettra pas de réunion impromptue demain matin, non, j'en suis sûr. Et alors nous nous retrouvons demain, comme d'habitude, à 11h, pour la fin de la lecture du texte du Rav Kook, c'est-à-dire l'approfondissement de cette question du Yosher et des Egoulim, et surtout la notion de Shrina et son triomphe final, tel que nous allons le voir dans le texte, que je vous invite d'ailleurs à préparer à l'avance jusqu'à demain. Alors à demain, à ce soir, pardon, et à bientôt.
Merci. Je vais là.
Manitou. 5 février 86, cours du matin.
En deux mots, ma question, c'est simplement sur la graphie des mots Bohu, Vatohu. Ils sont écrits sans vague, sur des tracères. Alors, je présume que, bien entendu, ce n'est pas un hasard, bien entendu, bien sûr, Et cette absence de vav, j'aurais souhaité...
Bien, écoutez, vous avez votre réponse dans la question. Si vous vous souvenez du premier cours, toute l'histoire de la restauration du Tohuwabohu antique... Plus que le yod en vav, puisqu'il n'y a pas non plus de yod en Tohuwabohu, c'est de restituer le vav.
Voilà, c'est ça.
Et ça se passe pendant 6000 ans, et à travers les 6 directions de l'espace. J'en ai parlé le premier cours. Okay. Et vous verrez que sort 5 fois le mot de Yaakov est écrit sans vav, mais 5 fois il est écrit avec vav. Et le mot de Eliyahu, 5 fois n'a pas de vav, ça correspond, vous étudiez ça. Donc, et voilà, je m'aperçois que je n'ai pas de texte. Quelqu'un. Le texte en une page, oui, quelqu'un veut m'en prêter. Oui. Voilà, donc j'espère que ce matin il n'y aura pas d'attentat et que nous ne serons pas dérangés. Alors, nous reprenons tout de suite au deuxième paragraphe, et que nous n'avons pas encore lu, je crois. Mais je pense que vous devez avoir en mémoire tout ce qui s'est dit jusqu'à présent, et aussi y compris ce qui s'est dit dans les cours du soir. Mais, comme d'habitude, si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez pour des questions de traduction ou d'élucidation. Les questions générales, vous les laisserez pour la deuxième partie du cours. Alors, nous commençons à Hamoussar Hamoukoubal. La morale, ou la moralité limitée, mukhbal, finie, haïnoshi, humaine, elle est non shalem, ne peut être parfaite. Littéralement, c'est écrit n'est pas parfaite. Mipene, shebeatzmo, utsarich le moussar le amido al tahorato. Parce que, dit notre texte, lui-même, en hébreu, moussar est au singulier, donc je traduis en français au féminin, elle-même, cette moralité humaine, nécessite une morale, une moralité pour arriver à sa pureté. C'est-à-dire qu'elle-même nécessite un fondement qui vient d'ailleurs pour arriver à sa pureté. Vous vous souvenez sans doute que j'ai touché à ce point de l'analyse à une des conférences du soir en disant que c'est un grand problème dans la philosophie générale qui s'intitule « Le fondement de la moralité ». En général, les philosophies n'arrivent pas à désigner ce qui fait le fondement de l'obligation morale. C'est dit d'une autre manière dans notre texte que la morale humaine, de la pensée humaine livrée à ses propres forces, ne se suffit pas elle-même pour être véritablement morale, beta harata, beta orato en hébreu, dans sa pureté, elle a besoin d'un fondement qui lui donnerait son essence même. Aval, mais המושג המוסרי שבהחלטת המהות שבו, mais le concept moral dans l'absolu, l'entièreté de son essence, zohi atzura yoter pnimit shebahavaya, c'est cela la forme la plus intérieure de l'être. Vous vous rappelez que c'est relié au paragraphe précédent, dans les deux configurations de notre monde, les igulim, les sphères, les valeurs impersonnelles de la détermination, le kavayoshe, les valeurs de la personne et de la responsabilité morale du sujet. Le Rav nous avait dit que malgré les apparences de notre perception du monde dans la culture contemporaine qui est scientifique, scientiste parfois d'essence, c'est malgré tout le kavayoshe, les valeurs de la morale qui sont plus importantes dans la réalité que la détermination naturelle elle-même. Je ne suis pas allé trop vite, c'est très clair. Eh bien, c'est donc relié. Dans cette phrase que je reprends, Zohi atzura ayoter pnimit shebahavaya. La moralité vraie, c'est cela, la forme la plus intérieure de l'être. C'est encore une fois, et j'y reviendrai tout à l'heure, en première lecture, une option d'optimisme et d'espérance et de foi que nous avons dans ce texte. Étant donné la tension, le conflit entre le kavayosher et les haïgoulim, entre la morale et la nature, il y a une option de foi que le Rav traduit en des termes de la Kabbalah, en termes homogènes, disons, à l'atmosphère culturelle contemporaine, selon laquelle, option de foi, selon laquelle, le kavayosher, c'est l'essentiel et donc il triomphera. Et pour le moment, nous avons cette lecture directe au niveau option de foi. Et nous posons la question immédiatement après la traduction, d'où vient cette certitude? Qu'est-ce qui fonde cette foi elle-même? Et vous me rappellerez que je reprenne l'analyse du Réchimoun que nous avons eue hier soir. Ça vient de là. J'y reviens. Et la phrase importante suit immédiatement ce que je viens de lire. Zot hi ha-shechina. C'est cela la Shechina. C'est cela, ce que je vous ai déjà traduit plusieurs fois, comme étant la présence qui se laisse deviner, qui s'exprime à travers ce que le texte biblique nomme le Or, la lumière qui vient dans notre monde. Et qui, je rattache de nouveau cela aux analyses de M. Levinas, pour la tradition juive, se lie non pas tellement dans la clarté comme clarté, quoique cela fait partie aussi de cette évidence, mais dans ce qui se passe sur le visage. Et j'ajoute tout de suite une précision. En hébreu et dans la catégorie traditionnelle, le mot de Shechina ne signifie pas simplement présence impersonnelle, présence muette, présence qui finalement serait pire qu'une absence parce qu'elle serait muette, mais c'est une présence providentielle dans le sens strict. Le Kavayosher s'occupe des créatures qui sont au bas de l'échelle, dans leur lama Asiya, dans Asiya de Asiya, et il y a providence, et pas seulement idée de Dieu, comme chez les philosophes, présence incontournable, mais muette. Je pense que c'est bien clair. Alors retenez, Shechina, Hamevia, les Hahakara Haelokit, Betoafot Oza, qui fait advenir, amène à la reconnaissance divine, le fait de reconnaître cette présence par des manifestations de sa force, betorafot oza, et non pas aza. Hi ha'em, elle est la mère, amashpelet atzma, qui s'incline, qui, littéralement, ça signifie qui condescend, mais dans le sens positif, qui descend, qui, aidez-moi à traduire, amashpelet atzma, qui s'abaisse, oui, ad tehiyat, ad slicha, tahtit hamadrega shel ha'olam, jusqu'au niveau le plus inférieur où se trouve le bébé. Ha'em, la mère, va jouer un rôle très important donc dans le vocabulaire de la Kabbalah, comme vous le savez. Je regrette que l'étudiant qui m'a parlé l'autre soir de la thèse qu'il faisait corollairement des textes tibétains ne soit pas là. Et il avait parlé d'anthropomorphisme. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, faites bien attention à cela. Je vais en parler, je pense, quand même assez suffisamment. Il ne s'agit absolument pas d'anthropomorphisme. Alors, je vous donne d'abord des équivalences très, très directes. Ah, la M est située au niveau du Olam HaBriya. C'est le Olam HaBriya qui s'appelle Bina. Et en fait, le nom de ce niveau de l'être, c'est en araméen habituellement dans nos textes, Ima, la mère. Mais il ne s'agit pas du tout de ce que les mythologies païennes risquent d'en faire ou en ont fait. C'est l'intelligence. Et ça m'amène donc à une parenthèse qui est rattachée un peu au sujet d'hier soir. C'est une notion que je n'ai pas voulu introduire dans le vocabulaire, qui est la notion de partsouf ou pirtsouf, suivant certaines prononciations, qui est un mot de l'hébreu rabbinique emprunté au grec, qui signifie le visage. Et vous savez qu'il est entré dans l'hébreu moderne, à travers l'hébreu rabbinique d'ailleurs, mais dans l'hébreu moderne, il a habituellement un sens un peu argotique, négatif. Faire la mine se dit la hasot partout. Okay? Mais dans l'hébreu kabbaliste, ça veut dire silhouette et ça veut dire configuration du visage. Alors il y a le visage du père qui s'appelle Abba, c'est Horma, et le visage de la mère qui s'appelle Ima, c'est Bina. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'intérioriser, comme disent les philosophes de l'intériorisation, ou d'abstractifier, comme disent ceux de l'abstraction, purement et simplement, mais il s'agit de comprendre la signification de ces midot, de ces manières d'être, et ne pas tomber dans le risque de l'anthropomorphisme païen. Je vais vous raconter un midrash très rapidement sur ces notions qui nous l'éclaireront, je suppose, suffisamment. Parce que, après la faute du veau d'or, Dieu dit à Moïse : je vais annuler ce peuple et je jetterai la montagne, je vous cite le midrash, et je l'écraserai sous la montagne. Alors Moïse dit : d'accord, mais voilà comment il faut faire. Il faut d'abord diviser la montagne en autant de petits cailloux qu'il y a d'infini et jeter les cailloux un après l'autre. C'est comme cela que tu écraseras ce peuple. Alors la première parole est celle de l'entièreté de la sagesse, puisqu'il y a faute, il faut annuler. Ça c'est je jetterai la montagne, c'est Chochma qui parle, c'est Abba qui parle. Mais la mère intervient, c'est Moïse. Vous voyez que rien à voir avec l'anthropologie, l'anthropomorphisme idolâtre, et qui dit à quoi ça ressemble. Vous avez compris le message. À quoi ça ressemble la querelle entre les parents quand l'enfant a fauté. Tu as vu ce que ton fils a fait. Oui, mais pense à ton fils. Vous voyez à peu près le problème. C'est ce jeu nécessaire pour que le monde subsiste entre Chokhma et Bina. Alors, un des partoufim s'appelle Abba, l'autre s'appelle Imma. Avec l'étonnant paradoxe de la tradition juive en général et talmudiste, kabbaliste, c'est que c'est la Imma qui est la Midat Hadin et le Abba qui est la Midat Harachmi. C'est très apparemment paradoxal, mais je referme la parenthèse pour pouvoir finir le texte. Si vous voulez que nous revenons sur ce point, nous le retrouverons dans les questions. Donc je relis la phrase. « Ha'em, la mère, amashpelet atzma, qui s'abaisse, rad tartit hamadrega shel ha'olam, jusqu'au degré le plus inférieur où se tient le bébé qu'il faut faire grandir, naître, reconstruire, selon notre vocabulaire. » La Kabbalah, dans ses sources, a des formules extrêmement frappantes, extrêmement centrales. C'est que la relation de Bina aux mondes qui sont plus bas, c'est-à-dire Tiferet et Malchut, et je vais choisir un vocabulaire très simplifié, c'est la vocation d'un géant qui inverse sa stature pour donc regarder à l'envers et faire passer la lumière dans ce geste de l'envers à ce qui est plus bas. C'est Mashpelet Atzma, c'est-à-dire la Bina dans sa grandeur, dans le projet du Créateur, se fait l'inverse d'elle-même et s'abaissant, inclinant, si j'ose dire, mettant en bas ce qui est en haut, pour pouvoir communiquer avec ce Olal, ce bébé qu'il faut faire grandir et qui est le monde. Et il y a énormément d'autres, entre guillemets, images. Mais encore une fois, prendre bien garde à ce que ces images, qui ne sont pas des images, ne sont que des images. Je ne sais pas si j'ai réussi à le dire. Et Atsarich, Yenika, Betipul, Yalduti, ce bébé qui nécessite, a besoin de allaitement et soins infantiles, soins pour enfants. Yalduti. Ou Mekor, Shorcha, ou Marom, Venissa. Alors que la source de sa racine est élevée et au-delà, cette Bina. Alors que son être, sa situation, sa manière d'être est très haut, elle s'abaisse infiniment pour pouvoir s'occuper des soins à donner à ce monde en reconstruction. C'est l'idée de Shrina, qui n'a donc rien à voir avec l'idée de Dieu qu'on trouve chez les philosophes. C'est pourquoi j'y ai substitué la notion de providence. Dans son sens simple, habituel et strict. Yoter Mikol Chukei Ha'avaya. Là déjà que perce le secret, se rase à Yosher Vaïgouli. Que cette Bina a sa situation d'être très haut, beaucoup plus haut, je relis en hébreu, Mikol Chukei Ha'avaya, que tout ce qu'il y a comme détermination dans l'être. C'est-à-dire que finalement, la source du Kava Yosher est beaucoup plus haut que celle des Igoulim. Et bien que la souveraineté de détermination des Igoulim nous semble essentielle, en tout cas dans notre culture contemporaine, ce que l'on appelle le déterminisme, la source de la force des valeurs morales qui travaillent en l'homme, le Kava Yosher, est beaucoup plus haut et beaucoup plus fort. Je continue encore, il nous reste trois paragraphes avant d'interpréter. Betoch ha'Igoulim Atzmam, au sein des sphères elles-mêmes, c'est-à-dire de la détermination elle-même, qui vient d'être nommée Hukke Havaya, ce qu'il y a de déterminisme dans les lois du monde. Donc, au sein de cette détermination...
Tu n'as pas lu la dernière
phrase que je sais pas. C'est quoi ? J'ai omis une phrase ? Oui, alors je continue, je reprends. Amakifim, kol, qui entoure tout, be, oz, a anaki, chez la echrea, de la force gigantesque de la nécessité, vek vi'out chez la hev, et de l'imposition précise qui est la leur. Et donc, cette phrase est importante, les lois de la détermination du monde qui s'imposent de façon absolue à tout. Eh bien, le Shoresh du Kavayosher, à travers la Shrina de Bina, est plus fort que cela encore.